faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Le pueblo unido jamás será vencido.
De vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, Wakadi prend de la hauteur. Enfin, on va chercher à prendre de la hauteur plutôt. Vous le savez, nous sommes plutôt habitués à nous poser des questions sociales à Wakadi sur Radio Clapas. Mais les questions sociales peuvent nous mener à tout, vous allez voir, et même jusqu'à des questions philosophiques. En effet, quand on voit la place que prend aujourd'hui l'irrationnel dans nos sociétés, à la fois dans les critères d'embauche par exemple, dans les projets politiques de certains, les peurs de l'avenir des autres, les raccourcis que peuvent prendre parfois certains médias au niveau statistique, ou encore la remontée du phénomène religieux, finalement on se dit que la place de la raison et de la méthode scientifique devient une vraie question sociale. Alors il faut dire que parmi les membres de notre petite association, il en est certains, j'en ai trois autour de la table, qui taquinent les hautes sphères de la connaissance scientifique. Et comme ces gentils Wakadiens se posent aussi parfois des questions existentielles, on peut le dire, eh bien ils nous amènent tout naturellement à nous intéresser à des thèmes philosophiques et même épistémologiques. Alors c'est sans la moindre modestie que nous allons nous attaquer tout de suite à la question cruciale de la vérité scientifique. Avec notre invité, Hubert Crivine, qui est physicien, enseignant-chercheur à l'université Pierre et Marie Curie, et qui vient de publier « La Terre, des mythes au savoir » aux éditions Cassini. Alors avec moi sur le plateau, je le disais, Boris, Nicolas et Maël seront chargés de connecter leurs neurones pour nous aider à mieux comprendre votre pensée, monsieur Crivine, notamment pour comprendre si la science conduit à produire une vérité comme les autres, si on doit relativiser cette vérité-là, si on doit la considérer comme une croyance comme les autres. À la technique, on a du luxe aujourd'hui car c'est Galad qui nous envoie les sons. Bref, nous sommes prêts au décollage vers l'espace et les grandes découvertes. Wakadi, c'est parti.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Donc Hubert Crivine, tu as écrit un livre là récemment qui s'appelle La Terre des mythes au savoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement parce qu'on a une heure pour parler de plein de choses?
Peut-être le titre est pas très bon.
Ah bah alors ça c'est quand même gonflé parce que c'est quand même ton livre.
Oui, non, c'est moi qui l'ai écrit donc j'en parle en connaissance de cause. Non, il est pas très bon peut-être pour la raison suivante, c'est qu'il peut donner l'idée que jadis il y avait des mythes et pas de savoir et puis qu'aujourd'hui il n'y a plus de mythes et il n'y a que du savoir. Ce qui est évidemment très naïf et c'est pas ça qui est défendu dans ce livre, bien entendu.
D'accord, donc un titre un petit peu ambigu, mais en tout cas le propos n'a pas l'air d'être très ambigu. On a ici de quoi se questionner sur la science, de la construction de la science et de la vérité scientifique. Et une première chose qu'on voudrait se demander, nous, à Wakadi, c'est, on parle beaucoup de science, donc on va entendre un extrait sonore tout à l'heure de ce que les gens peuvent percevoir comme science, avec les applications ou autres, mais est-ce que tu pourras, après le son qu'on entend, nous expliquer un peu comment on peut différencier la science avec ceux qui la font, ceux qui en vivent et tout ça? On va écouter le son tout de suite.
Voici 10 ans, la ville d'Hiroshima était rasée par l'explosion de la première bombe atomique qui fit, selon la Croix-Rouge japonaise, 240 000 morts et 150 000 blessés, dont un grand nombre devait succomber par la suite. Ce jour-là, le monde apprit que l'enfer pouvait être déchaîné par les hommes.
En calèche, voilà une arrivée au palais de justice plutôt originale. À son bord, 9 faucheurs qui comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal de grande instance d'Angers. La justice leur reproche d'avoir détruit en septembre 2007 un champ d'OGM à Charcey-Saint-Hélier dans le Maine-et-Loire.
N comme nanotechnologie. L'étude des choses 1000 fois plus petites qu'un cheveu. Ce sont les briques élémentaires de la nature et elles peuvent être réassemblées pour construire des choses étonnantes. comme un téléphone si petit qu'une fourmi pourrait l'utiliser, ou un minuscule ordinateur contenant tous les livres qui puissent exister, ou peut-être même des choses que nous n'avons pas encore imaginées. N comme nanotechnologie, une science aux possibilités quasi infinies.
On a parlé tout à l'heure du nuage radioactif qui se dirige vers l'Autriche et la Yougoslavie. Tous les Français qui nous écoutent se demandent si ça va venir chez nous et si ce nuage sera très toxique.
Alors si ça va venir chez nous, ça je crois qu'il faudrait demander aux spécialistes de la météo. Mais par contre, la toxicité, là on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. Ça n'en a présenté aucun en Scandinavie. Et plus le temps passe, plus ça se disperse et ça devient totalement insignifiant.
En tout cas, cet accident remet en cause aussi les principes de sécurité que l'on a tant vantés un petit peu partout dans le monde.
Oui, là aussi, il faudrait en savoir davantage. Parce que n'oubliez pas que les soviétiques développent un type de réacteur qui est quand même très particulier. Et on aimerait bien en savoir davantage sur les causes de l'accident avant de remettre tout en cause.
Merci de ces premières explications, monsieur Tanguy.
Bon, alors là, on a entendu un son sur les applications de la science, et souvent, donc, on confond science, ce qu'ils la font, ce qu'ils en font, les institutions, les experts, les applications. Est-ce que tu pourrais un peu nous guider là-dedans ?
Oui, c'est un distinguo, je crois, qu'il faut faire. C'est vrai que dans l'opinion publique, la science, ça veut dire plein de choses simultanément. Et je voudrais essayer de montrer que c'est très important de distinguer entre ce qu'on pourrait appeler vraiment la science, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances acquises, une démarche précise, rationnelle, qui pour moi est la science. Il faut distinguer ça soigneusement des institutions qui sont censées la promouvoir, mais on va y revenir, et la distinguer aussi soigneusement des applications scientifiques, comme la bombe atomique ou le BCG. Le BCG, c'est très bien, la bombe atomique, c'est très mauvais. Bon, de la même façon, il faut savoir distinguer la télévision de TF1. La télévision, ça pourrait être une très bonne invention, TF1, c'est très mauvais, bon, etc., etc.
Mais après aussi, on a un problème avec la science, c'est qu'on a des scientifiques qui arrivent dans les médias et qui nous disent, bah, moi, je suis scientifique, et puis je vous dis que le nucléaire, il n'y a pas de danger, ou je vous dis que le climat, ça ne se réchauffe pas ou autre. Alors, il y a aussi un petit distinguo à faire ou pas ?
La difficulté, c'est que quand les scientifiques parlent, ils ne font pas nécessairement de la science. L'exemple le plus caricatural dont j'ai parlé dans mon livre, c'est le grand Cuvier. On reviendra sur des scientifiques actuels. Quand le grand Cuvier, qui est un des plus grands scientifiques du 19e siècle, disait que les nègres étaient la race la plus dégénérée que l'humanité ait jamais connue, c'est un grand scientifique qui parle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il fait de la science quand il dit ça ? On pourrait... Bon, actuellement, on verra d'autres scientifiques.
On va voir qu'on a la Cuvier 2011 avec le son prochain et notre cher camarade Allègre.
Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Claude Allègre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences françaises. Vous avez pris des positions pour le moins controversées, notamment sur le réchauffement climatique, auquel vous ne croyez pas vraiment. Hein.
France Inter, le 7-9.
Guy nous appelle de Villefranche-sur-Saône. Bonjour et bienvenue, Guy. Allô, allô.
Bonjour. Alors, je souhaite poser une question à monsieur Allègre. On vous a reproché d'avoir publié dans votre ouvrage une version modifiée d'une courbe de température établie par le paléoclimatologue suédois Grud. Ce à quoi vous avez répondu, toutes les courbes de l'ouvrage ont été redessinées. Il y a donc des inexactitudes ou même des exagérations par rapport aux originaux. C'est un choix éditorial. Par ailleurs, Jean-Louis Fellous a écrit « Claude Allègre ment allègrement ». Il vous reproche, entre autres, de confondre prévisions météorologiques et projections climatiques.
Et puis surtout, aujourd'hui, vous attaquez au difficile problème de la dette et de la crise de l'euro.
Quand ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Alors, vous publiez un livre intitulé « Peut-on encore sauver l'Europe ?» Vous répondez oui, mais entre-temps, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses entre l'écriture...
Je ne voudrais pas vous contrarier, mais entre la parution de mon livre et maintenant, rien ne s'est passé qui ne soit dans mon livre. Je n'ai aucune surprise dans ce qui se passe.
Vous ne vous reposez jamais, vous. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde.
Alors vous reconnaissez la patte de Boris au montage sur ce Claude Allègre.
Vicieux,
que... oui. Vicieux. On va revenir peut-être un peu sur la distinction que vous cherchiez à faire là entre les institutions, entre les chercheurs et les techniciens, en tout cas ceux qui mettent en pratique la science. Comment vous pouvez nous aider à mieux y voir ? Parce que votre exemple là sur la bombe atomique, je me disais que j'ai l'impression que jusqu'à quel point on peut considérer que c'est la science qui a amené la bombe atomique et à partir de quand on peut imaginer que ça devient les utilisateurs, en tout cas les politiques qui décident de l'utiliser.
Bon, il est clair que la bombe atomique est le résultat de travaux scientifiques. Notamment la fameuse relation d'Einstein, E égale MC2, était utile à la construction de la bombe. Bon, De la même façon, les lois de la gravitation sont utiles pour comprendre comment et pourquoi un avion peut voler, et aussi pourquoi il peut s'écraser. Il s'écrase aussi parce qu'il y a une loi qui explique la loi de la chute des corps. Mais si un avion s'écrase, c'est pas à cause de Galilée qui a trouvé la loi de la chute des corps. Si une bombe atomique explose, ça n'est pas à cause de la relation trouvée par Einstein, E égale MC2. C'est tout. La relation E égale MC2 est une connaissance, et elle est émancipatrice potentiellement pour l'humanité. D'ailleurs, c'est un détail, enfin un détail si on veut, les savants qui ont, une fraction importante des savants qui ont fabriqué la bombe étaient contre qu'on la lance à partir du moment où il était clair que l'Allemagne nazie était battue. Hein. Donc c'est une décision politique de lancer la bombe atomique et de la fabriquer et de la lancer. Cette distinction, si vous voulez, ce qui rend la chose compliquée, bien entendu, c'est que c'est de comprendre que quand des savants parlent, des grands scientifiques même parlent, par exemple Allègre, j'ai pas parlé de Cuvier, mais Allègre est un grand scientifique, il n'y a pas de doute, sur l'âge de la Terre, il a vraiment apporté des choses importantes. Mais l'escroquerie vient du fait qu'on utilise son titre de savant ou de connaisseur pour parler de sujets qui ne sont pas les nôtres. Reprenons Allègre ou reprenons Cuvier. Quand Cuvier dit que les nègres, c'est la race la plus dégénérée, il faut dire que quand Cuvier dit ça, il a quitté le terrain de la démarche scientifique. Il a fait des affirmations qui ne sont pas prouvées, pas démontrées, avec des mots « race », etc., qui ne sont pas définis. Et c'est au nom de la science qu'il faut critiquer Cuvier pour avoir dit ça. Je prends un autre exemple peut-être un peu plus vivant, la question des OGM. Bon. J'ai eu une polémique avec Testard, qui est un ami que j'aime bien, enfin on se connaît. Mais Testard, pour justifier les faucheurs d'OGM, a dit « Oui, quand les scientifiques disent que les OGM, c'est pas dangereux, ça veut rien dire, parce que la science, on peut faire dire n'importe quoi. » Je crois que Testard a eu tort de dire ça. Si on pense que les OGM sont dangereux, il ne faut pas dire à la science, on peut faire dire n'importe quoi. Il faut démontrer que ceux qui disent que les OGM ne sont pas dangereux ont quitté le terrain scientifique et ont fait autre chose. C'est extrêmement important. Les OGM aussi, c'est un très bel exemple, parce que moi, je crois qu'il est absurde d'être pour ou contre les OGM. On peut très bien être contre les OGM Monsanto en plein champ, etc., avec tout ce que ça peut signifier derrière, et être pour la recherche sur les OGM qui permettent de faire, par exemple, de l'insuline de bonne qualité, très bon marché, etc., etc. C'est la même chose que je disais entre la télévision et TF1. On peut très bien être pour la télévision et contre TF1. Donc, je crois qu'il faut éviter des choses du genre « je suis contre les OGM ». Il faut rentrer dans le détail. Et
en introduction, vous évoquiez une distinction entre la science, la connaissance scientifique et les institutions. Pensez-vous qu'il existe une connaissance scientifique, une recherche scientifique qui ne soit pas institutionnelle ?
Non, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est de grands organismes qui permettent de faire la recherche scientifique, c'est évident. Mais pour faire la différence entre ce que je considère une démarche scientifique au bon sens du terme et celle qui est au mauvais sens du terme, je crois que le meilleur exemple, c'est les brevets. Tous les scientifiques, enfin, ce que je considère comme étant des scientifiques sérieux, sont contre les brevets. Ils sont contre tout ce qui limite la diffusion de la recherche scientifique, contre le secret, y compris pour des raisons d'efficacité. Si vous faites du secret dans la recherche scientifique, vous faites des choses mauvaises. Les vieux se souviennent peut-être des avions renifleurs, par exemple. Ça a pu marcher, cette escroquerie des avions renifleurs, parce qu'il y avait un secret défense là-dessus. Donc la science, la vraie science, s'oppose totalement à la compartimentation, au secret, etc., et au brevet. Bon, mais maintenant, si vous prenez les institutions, bien souvent, elles sont pour. Donc, vous voyez que l'attitude par rapport au brevet est complètement orthogonale. Et ce qui rend la chose compliquée, c'est que souvent, les institutions sont effectivement dirigées par des scientifiques.
Je voulais revenir sur la distinction que tu fais, à laquelle tu tiens, entre science et application. Prends les trois derniers prix Nobel français, par exemple, puisqu'on les connaît. Donc, cette année, il y avait Hoffman, Jules Hoffman, qui est un grand immunologiste, mais qui est également le fondateur d'une société qui travaille à la fabrication de médicaments à partir d'extraits d'insectes. Auparavant, il y avait Albert Fert, le physicien, qui crée un laboratoire mixte avec la société Thales pour appliquer justement une partie de découverte. Encore avant, tu avais Montagnier et Barésine aussi sur le sida qui découvre le virus du sida, mais qui en même temps crée un test de dépistage du sida. Donc, les mêmes personnes sont indissociablement impliqués dans la recherche et dans l'application. Alors pourquoi est-ce que tu distingues ? Est-ce qu'un jour Albert Fert est chercheur, un autre jour applicationneur ? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Comment peux-tu distinguer les deux si c'est les mêmes personnes qui font dans un continuum les mêmes activités ?
Je voudrais savoir ce que Albert Fert raconte. Enfin, je connais un peu ce qu'il raconte sur la science, je veux dire, mais... oui, bon, ça rend, je suis d'accord avec toi, ça rend la chose compliquée. J'ai essayé de la rendre caricaturale avec Cuvier quand il a parlé d'autre chose. Quand Albert Fert parle des semi-conducteurs ou des choses comme ça, il dit des choses tout à fait raisonnables. Bon, oui, oui, bon, bien sûr.
Mais en fait, c'est qu'ils ont deux casquettes. C'est-à-dire que c'est ce qui est difficile, c'est de voir qu'il y a deux têtes sous les deux casquettes. Mais que c'est, la même, c'est le même nom, quoi. C'est la même personne à chaque fois qui fait les
mêmes
choses.
Pourquoi ça reste deux têtes? Est-ce que c'est pas une et une seule même tête? C'est parce que je reviens sur ta distinction. Tu tiens à distinguer science et application, distinction qui me semble.
Oui, mais je peux te donner d'autres exemples si tu veux. Si tu prends dans le détail la démarche de Kepler. Tu ne peux pas expliquer ou comprendre la démarche de Kepler sans l'idée que Kepler avait que c'est Dieu qui a créé une harmonie dans le monde, et donc il tenait absolument, disons, à cette harmonie, et c'est ça qui va l'aider à trouver ces fameuses ellipses. Bon, c'est le même Kepler, donc partiellement le Kepler aura une démarche scientifique, le même bonhomme est parfaitement une démarche complètement mythique, il pensait aussi que c'est l'âme qui expliquait le mouvement, etc., etc. Donc je crois quand même que je distingue, par exemple, quand je fais un enseignement des lois de Kepler, ben, j'explique les lois de Kepler, je laisse tomber l'aspect que les âmes entraînent les planètes et la recherche d'une symétrie divine. Bon, voilà, effectivement, les hommes sont des gens qui peuvent être compliqués, bien entendu, et ça rend effectivement l'affaire compliquée. Mais bon.
Après, on peut voir des distinctions, parce que c'est ce qui en effet, c'est pas l'homme en tant que tel ou la personnification de la personne qui trouve ou qui applique. Ce qui est différent, c'est qu'il y a une science donc, qui fait augmenter les connaissances, et après il y a une application qui devrait être un choix plutôt social, ou si on applique et qu'on développe une technologie, qui est d'utiliser cette science à telle ou telle fin. Le problème, c'est pas, c'est un peu comme pour les moyens de production, le problème, c'est pas qui, enfin, que sont ces moyens de production, mais à qui ils appartiennent et pourquoi en faire. Donc les applications, c'est un peu le même problème. Essayer de distinguer la connaissance qui peut permettre des applications, et après l'application qui aussi nécessite peut-être pour certaines applications des choix démocratiques et politiques.
Par exemple, je connais pas la position de Fert sur les brevets. Mais je ne serais pas gêné de dire que si Fert est pour les brevets et le secret, etc., de fabrication, il a une position non scientifique, tout grand bonhomme qu'il soit. Ça ne me gêne pas du tout de le dire. Le même bonhomme peut avoir des positions contradictoires.
Justement, si tu tiens la distinction entre science et application, oui. Les brevets relèvent de l'application. Donc, oui, tu ne serais pas choqué qu'il y ait une libre diffusion des connaissances pour ce qui est du savoir, oui, et une diffusion restreinte à travers les brevets, encore que les brevets n'empêchent pas la diffusion, précisément les brevets, oui, sont, oui, publiés. Oui. Si tu tiens tant à la distinction, les brevets sont assez logiques, c'est pas de la science, des applications.
Oui, enfin c'est souvent subtil, maintenant on se demande même en maths si on ne va pas faire breveter les théorèmes de maths. Hein. Si Pythagore avait eu son théorème breveté, il serait extrêmement riche. Non, mais enfin en gros c'est clair, ce que veut dire une libre circulation des idées. Bon, que les industriels brevettent leur machin s'ils veulent, mais pas les gens du CNRS par exemple. Hein.
Donc là on a vu un petit peu les distinctions, on voit que c'est pas forcément facile, mais c'est bien d'avoir quelques boussoles pour distinguer ceux qui font la recherche, la connaissance qui sort des sciences, les institutions autres. Et dans ce qui est intéressant dans ce livre, et ce qui me paraît intéressant de montrer, c'est le processus qui naît, par exemple avec l'exemple de l'âge de la Terre, pour qu'une vérité scientifique émerge et soit après, dans le domaine de la connaissance. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est née la détermination de l'âge de la Terre? Comment on a fait pour savoir que la Terre, elle a 4,5 milliards d'années à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? On part d'où?
En 2 minutes.
2 minutes, c'est
2030. 2030.
Deux siècles de recherche en 2 minutes.
C'est vrai que c'est un problème extraordinaire. Si tu te lèves le matin et que tu te demandes quel âge peut avoir la Terre, comment je vais faire, ça a l'air d'être une opération folle.
Sauf si on lit la Bible.
Voilà. Alors, heureusement, il y avait la Bible qui donnait.
Même lire la Bible le matin, c'est quand même pénible aussi.
Non, non, il y en a qui font ça. Donc, la Bible, heureusement, avait une réponse. En gros, c'est 6000 ans. La Terre est datée de 6000 ans si on lit la Bible. Mais à partir du moment où c'est éloigné de ça et qu'on a cherché un chronomètre, on va trouver toutes sortes de chronomètres possibles. On va compter la sédimentation, combien de temps, ou bien on va compter l'éloignement entre la Terre et la Lune, parce que ça va donner aussi une image de l'âge de la Terre. Et puis la bonne réponse, elle va être donnée par la radioactivité. Ça, c'est une théorie très forte et très très convaincante, et qui va dater la Terre à 4,55 milliards d'années.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, justement, on se lève le matin et qu'on veut savoir quel âge a la Terre? Pourquoi est-ce qu'on ne se limite pas à l'écriture de la Bible? Qu'est-ce qui a fait qu'on se pose la question et qu'on essaye de trouver, par d'autres biais, de trouver l'âge de la Terre? Ça suffit pas d'avoir la Bible et puis ça peut pas être suffisant comme...
Ben, si tu veux, pour l'homme de la Renaissance, il n'y a pas cette distinction. La connaissance est donnée par la Bible. Enfin, si, l'idée banale à l'époque, et elle est encore développée par les croyants actuels, c'est que tu as deux livres. Il y a le livre de la nature et le livre saint. Le livre saint, ça peut être la Bible ou ça peut être le Coran, pour ce que je veux dire, c'est à peu près la même chose. Et ces deux livres ont été écrits par Dieu. Et comme Dieu peut tout, sauf la contradiction, ces deux livres ne peuvent que coïncider. Jusqu'à Galilée, il n'y avait pas de contradiction entre les deux, ou des contradictions tout à fait mineures. Il était bizarre qu'on puisse penser que Dieu avait des pieds et des mains, etc. Donc il fallait une certaine interprétation allégorique, disons, de la Bible, mais pour des choses secondaires. Avec Galilée, et surtout avec Darwin, l'affaire va se compliquer, parce qu'en fait Galilée est contradictoire avec la Bible quand il affirme que c'est le soleil qui est fixe et la terre qui tourne autour, alors que la Bible dit explicitement le contraire. Donc la contradiction devenait majeure.
Alors on a un petit son là sur Galilée là justement qui nous explique un peu son positionnement sur l'héliocentrisme. C'est tiré du film Galilée ou l'amour de Dieu, où Galilée est joué par Claude Rich. Donc on va écouter ça tout de suite.
Admettons un instant que la Terre tourne sur elle-même. Quels arguments avancez-vous pour dire que la Terre tourne aussi autour du Soleil et non l'inverse?
Cette possibilité est plus facile à justifier et plus difficile à argumenter. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil se justifie par un seul mot, je vous l'ai déjà dit, l'élégance. Dire que les planètes tournent autour du Soleil, c'est retrouver l'harmonie du monde. Les petites planètes tournent autour du grand Soleil. L'organisation du monde, qui est l'œuvre de Dieu, doit obéir à des lois universelles. Et lorsque nous voyons les quatre petits satellites de Jupiter tourner autour du grand Jupiter, on ne peut pas s'empêcher de penser aux petites planètes comme la Terre, tournant peut-être autour du grand Soleil.
Mais vous dites vous-même que vous n'avez pas d'argument pour défendre cette idée. Une idée que je tiens pour fausse et condamnable.
Non, mon père, j'ai seulement dit que cette idée était moins simple à argumenter. Mais c'est possible. Si les planètes Mars et Vénus, par exemple, tournent autour de la Terre, lorsqu'on les observe, on devrait les voir tourner toujours dans le même sens.
En effet, c'est évident. Vous voulez-vous en venir?
Eh bien, en fait, on les voit tantôt avancer, tantôt reculer. Mais laissons Mars et Vénus.
Oui, laissons cela, en effet, car ce que vous apportez ne sont que des affirmations.
Alors, permettez-moi un autre argument. Deux fois par jour, la mer se retire des plages, puis 6 heures plus tard, revient au galop.
Oui, cela s'appelle la marée.
Un phénomène observé depuis très longtemps qui demeure inexpliqué.
Soit.
Eh bien, si l'on admet que la Terre tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même, le mouvement de la Terre sur elle-même va dans le même sens que le mouvement autour du Soleil, la nuit. En revanche, le jour, c'est l'inverse. La rotation de la Terre va à contresens du mouvement du Soleil. Donc, on comprend pourquoi la mer se déplace tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre.
Qui nous le prouve?
Nous n'avons pas de preuves pour l'affirmer. C'est vrai.
Alors là, Galilée, il nous parle un peu de la position de la Terre relativement au Soleil. Il nous parle aussi, donc ça c'est quelque chose, chez les communs du mortel, on se dit, oui effectivement, maintenant on le sait, la Terre est pas au centre de l'univers, pas au centre du système solaire, et elle tourne autour du Soleil. Mais il nous dit un autre truc qui est un petit peu plus exotique pour les homo sapiens modernes que nous sommes, c'est l'histoire d'explication des marées. C'est un peu bizarre ça.
Non, enfin, le problème, c'est que Galilée, là j'ouvre une parenthèse, mais enfin, Galilée a pensé donner une explication du mouvement de la Terre autour du Soleil avec les marées. Bon, son explication est fausse. Elle est fausse, elle est simplement fausse. Même dans la logique de Galilée, elle est fausse. Alors, ça a permis à l'Église moderne, actuelle, de dire, le procès de Galilée, finalement, les torts étaient partagés. Et les gens naïfs qui défendent Galilée comme ayant la vérité, etc., ne connaissent pas l'histoire. C'est drôlement hypocrite, parce que si vous relisez les textes de l'époque, personne n'a répondu à l'argumentation de Galilée sur les marées, parce que les gens y ont cru. Et ce qu'on a reproché à Galilée, c'est pas de faire une erreur en physique, d'ailleurs on ne menace pas les gens de les brûler parce qu'ils font une faute en physique, hein. Ce qu'on a reproché à Galilée dans le long réquisitoire de son procès, que je reproduis in extenso évidemment dans le bouquin, c'est uniquement d'avoir mal interprété les Saintes Écritures. Uniquement ça, et rien d'autre. Donc quand on dit que les torts étaient partagés, c'est une sacrée hypocrisie, hein. Bon, enfin, ça c'est pas le point que je voulais développer maintenant.
Donc, par rapport aux marées, il y a le premier truc qu'on disait, c'était qu'avec une explication comme ça, on a plus qu'une marée par jour et pas deux. Oui. Donc effectivement, les gens auraient pu s'en rendre compte. Mais par rapport à l'interprétation de l'écriture ou autre, est-ce qu'il y a une volonté de Galilée d'essayer de réécrire la Bible ou de relire la Bible pour essayer de la rendre en accord avec ce qu'il observe?
C'est une question très très longue, je ne vais pas développer longtemps, mais cette idée que le texte sacré doit être réinterprété est très vieille. Même dans saint Augustin, qui doit être au IVe siècle après Jésus-Christ, il y a déjà un peu cette idée que la Bible partiellement est allégorique. Chez les grands penseurs musulmans jusqu'au XIe siècle ou XIIe siècle, il y avait aussi cette idée que le Coran peut être largement, disons, interprété. Il y a un très joli exemple, je vais vous lire un peu ce qu'Averroès écrivait, qui est un penseur donc musulman. Il disait « Il n'est point dénoncé de la révélation dont le sens obvie, c'est-à-dire dans le sens immédiat, soit en contradiction avec les résultats de la démonstration, c'est-à-dire soit en contradiction avec la physique. » Il dit qu'il n'y a pas d'énoncé en condition physique, sans qu'on puisse trouver, en relisant dans le détail le texte, d'autres énoncés dont le sens obvie confirme l'interprétation ou est proche de le confirmer. C'est-à-dire, il dit, en d'autres termes, pour être brutal, si vous trouvez dans une sourate quelque chose qui vous choque du point de vue de la physique, lisez bien le texte sacré et essayez de trouver une autre sourate qui vous permet de lui faire dire pratiquement le contraire. Mais pour Averroès et pour l'écrasante majorité des commentateurs des textes sacrés, on ne peut s'amuser à contredire une sourate ou un verset, s'il s'agit de la Bible, que sous réserve qu'on trouve une autre sourate et un autre verset qui l'autorise, ou bien la pensée d'un père de l'Église, ou bien un extrait de la Sunna qui l'autorise. Galilée, quand il dit qu'il faut réinterpréter le texte sacré, donc de ce point de vue-là, est de cette école. Mais lui ne dit pas qu'il a besoin de l'autorité d'un père de l'Église, même au contraire, il dit les pères de l'Église se sont plantés complètement, ou d'une autre verset de la Bible. Il dit clairement, je le dis en langage moderne, mais c'est exactement ce que dit Galilée, relisez les textes de Galilée lui-même, il dit Dieu, bien sûr les saints pères de l'Église ont dit des bêtises, mais ça c'est normal, c'était des gens ignorants, mais Dieu ne peut pas se tromper évidemment. Donc quand Dieu a écrit que c'est la terre qui est fixe et le soleil qui tourne autour, pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a fait une faute pédagogique. Parce qu'il s'adressait à des gens primitifs et ignorants qui n'auraient pas pu comprendre un autre langage. Et donc, délibérément, Dieu a raconté des choses fausses. Et Galilée ne prend pas un autre verset de la Bible pour justifier ça. Et il dit, il est du devoir des savants actuels de dire aux gens ignorants de quoi il s'agit. Et ça, c'est une position extraordinaire. Je tire la ficelle à moi en disant, Galilée aujourd'hui défendrait Darwin, avec le même argument. L'affaire Ève et Adam, c'est naïf, c'est pour les enfants. Si on adopte la position de Galilée, c'est pas contradictoire avec une démarche scientifique, on peut toujours dire ça. Et je trouve que les littéralistes religieux de toutes les religions devraient fortement s'inspirer de Galilée, de ce point de vue-là.
On a un petit extrait qu'on va écouter tout à l'heure, là, d'Averroès aussi, à partir du film Le Destin de Youssef Chahine. Oui. Il me semble que ce qui était intéressant dans sa démarche, vous l'avez bien décrit, c'est le fait qu'il soit avant tout, on est au XIIe siècle, ça se passe à Cordoue, avant tout un religieux, et qui construit une culture scientifique à travers la médecine, l'astrologie et
l'astronomie. À l'époque,
l'époque tout est lié. Et en effet, il est complètement en permanence en train d'essayer d'explorer s'il a le droit de dire ce qu'il est en train de défendre au niveau scientifique à travers les textes religieux qu'il explore de l'autre côté. Mais ce qui me semble intéressant, et c'est vrai que c'est beaucoup moins révolutionnaire que Galilée, mais qui reste pourtant actuel aujourd'hui quand on voit la remontée du phénomène religieux, c'est de dire que dans le Coran notamment, il y a une expression possible de la liberté de recherche scientifique. C'est-à-dire qu'il semble, quand on peut relire un peu Averroès, que dans le Coran, on peut se permettre d'aller aussi loin qu'on peut dans la recherche scientifique, il n'y a rien qui le limite. En tout cas, rien qui, dans les textes coraniques, et a priori ni dans la Bible, interdirait à l'homme d'aller au-delà de ce qu'on lui enseigne au niveau religieux.
Oui, peut-être j'ai un commentaire à faire là-dessus.
On peut écouter le son et puis on en discute.
Oui, très bien, juste très après. Bien, très bien.
Par ordre de la Sainte Église du Languedoc, le tribunal de l'Inquisition a condamné l'hérétique Gérard Breuil ainsi que toutes ses œuvres à être brûlé sur le bûcher pour s'être détourné de la voie du Seigneur Jésus et pour avoir traduit les œuvres de l'hérétique Averroès.
sagesse conduit le docteur de la loi intègre à l'analyse dont se déduit le syllogisme. Et la loi divine a conduit les sages à l'analyse dont se déduit ce qu'on appelle la raison. La raison étudie la loi divine, l'érudition étudie la sagesse. J'affirme que ce qui est prouvé, sans être attesté par la jurisprudence, est sujet à interprétation. Aucun musulman croyant ne peut en douter. La raison est à la fois l'amie et la sœur de la loi divine. Les prétendus conflits entre raison et loi divine sont une invention mal intentionnée. Salam alaykoum. Salam, salam.
Je voudrais faire un commentaire sur le problème de l'interprétation du texte sacré. Pour nous, athées, la Bible ou le Coran sont de très vieux textes, pas tout à fait datés des mêmes époques, mais enfin, disons, pré-moyenâgeux, et qui reflètent les connaissances, les us, les coutumes de l'époque. Bon, que la femme soit inférieure à l'homme me paraît d'une évidence pour l'époque. Il n'y a rien de choquant, si j'ose dire, que l'homosexualité soit une horreur. Parcourt tout à fait la Bible et le Coran sans aucune ambiguïté, et c'est tout à fait normal. C'est l'époque, les mœurs, etc., etc. Bon. Pour les croyants, c'est pénible, ça, et c'est même insupportable. Dans la mesure où ils pensent qu'il s'agit d'un texte divin qui ne peut pas se tromper, alors ils sont obligés de se livrer à toutes sortes d'interprétations, d'isoler des phrases, etc. Bon, c'est un sport auquel ils se livrent, qui est tout à fait respectable et qu'on peut comprendre. Mais pour nous qui sommes laïcs, enfin disons, et athées, il n'y a pas de miracle, c'est pas la peine de chercher un miracle. Ces textes disent des choses qui sont simplement fausses et qui sont en harmonie avec la pensée de leur époque. Je crois donc que pour les athées, il ne faut pas nous s'amuser à chercher une bonne lecture de la Bible ou une bonne lecture du Coran. La bonne lecture de ces textes est une lecture de l'époque et rien d'autre, quoi.
Et donc là, il y a une grosse différence entre Averroès et Galilée. Alors.
Ah oui, parce qu'Averroès s'automutile en quelque sorte, enfin se limite. Galilée ne joue pas à ce jeu-là. Galilée dit c'est uniquement des raisons pédagogiques, les hommes n'auraient pas compris, et crac, voilà ce qu'il faut dire.
Et bien, puisque les hommes n'y comprennent pas forcément la Bible aussi donc les textes sacrés, il y a une bonne idée, c'est d'essayer de l'écrire en latin. Et il y a un local de l'étape, là, Georges Brassens, qui va nous en parler dans une petite chanson tout de suite. Là.
Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office dominical que quand il pleut. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'il fasse Tintin. Sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, suisse bedeau sacristain. Sans le latin, feront l'église buissonnière. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont des enragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranchent. La Seine est bonne vieille branche de la croix où ils sont perchés.
Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains.
Alors nous sur Wakadi, on va essayer de finir l'émission aussi sans le latin. On reprend, et toujours avec Hubert Crévin pour son livre La Terre des mythes au savoir. Et donc dans ce livre, on parle de vérité scientifique, ou en tout cas on essaye de voir qu'est-ce qui peut faire des critères pour définir une vérité scientifique. Est-ce que tu peux nous aiguiller un peu sur qu'est-ce qu'une vérité scientifique, parce que je pense que si on sait ça, on doit savoir pas mal de choses, non ?
Mon Dieu, si je savais, on a quelques éléments pour savoir ce que c'est, mais peut-être on peut être plus précis sur mythe et savoir. Quand les gens disaient que la Terre était âgée de 3998 ans avant Jésus-Christ, donc c'était très précis, ils se fondaient sur la Bible. C'est une démarche mythique, c'est une démarche incontestable, si j'ose dire. Et voilà, bon, point. Vous ne pouvez pas attaquer cette démarche. Hein. Enfin, on peut l'attaquer, mais bon, bref. Quand le grand Kelvin disait que la Terre était âgée de 20 millions d'années, il se fondait sur une démarche scientifique et pas sur une démarche mythique. Il avait une théorie, une équation correspondante, des données expérimentales, et il concluait. Des hypothèses, et il concluait. Bon, il s'est planté, c'est faux. Donc on peut parfaitement avoir une démarche tout à fait scientifique et dire des choses fausses. Mais ça, on peut remonter là-dessus. On peut regarder quelles étaient les hypothèses de Kelvin, quelles étaient ses démonstrations, où était l'erreur. Il n'y a aucun doute là-dessus, on peut très bien faire ça. Bon, aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus fort, on a compris pourquoi Kelvin s'est trompé, on a un résultat moderne, qui paraît infiniment résistant. Alors peut-être, on va démontrer que les constantes de l'univers ont bougé dans le temps, enfin toutes sortes de choses sont possibles qui vont ébranler les 4,55 milliards d'années. J'ai beaucoup de doutes. Pour moi, la datation de la Terre est aussi certaine que quand on date un arbre en comptant le nombre de cernes qu'il a dans lui-même. C'est une démarche scientifique, il y a une théorie qui dit que chaque année il y a un cerne qui apparaît. Des expériences qui sont faites, on conclut. Bon, c'est ce qui pour moi s'appelle une vérité scientifique.
Alors, tu nous as pas dit pourquoi tu t'étais intéressé à ce sujet qui est l'âge de la Terre, et parce qu'il est certain, c'est convaincant, on arrive à une vérité scientifique, mais est-ce que c'est pas finalement un cas particulier, cet âge de la Terre, sur des sujets beaucoup plus contemporains, ou sur des tas de sujets de nature scientifique, on ne peut pas arriver à une telle vérité. Tu parlais tout à l'heure des OGM, est-ce qu'on peut, oui ou non, arriver à une vérité scientifique sur leur innocuité pour la santé, l'environnement, et donc, pourquoi ce sujet, et est-ce qu'il est extrapolable hein, d'autres.
Ben, je trouvais que ce sujet, c'était en fait, il a eu pour point de départ un module de culture générale pour les étudiants. Et c'est un très joli sujet de culture générale parce que ça a introduit plein de choses sur la religion, même la psychologie, l'histoire, la physique, la géochimie, etc., etc. Donc c'est vraiment de la culture générale. Mais en même temps, c'est pas le sujet le plus facile parce que l'idée qu'on a d'une démarche scientifique, c'est un peu souvent une idée naïve, à savoir une théorie, une expérience, confortant ou ne confortant pas l'idée, une autre théorie, une expérience, etc. L'idée de reproductibilité, par exemple, est très liée à la notion de résultat scientifique. Sur l'âge de la Terre, on ne va pas reproduire une Terre. Donc c'est plutôt un sujet ingrat. J'ai essayé de montrer dans ce livre que, malgré tout ça, l'âge de la Terre est en dernière analyse expérimentalement démontré. Mais ce n'est pas direct, comme la plupart d'ailleurs des résultats scientifiques actuels. Alors, bon, je crois que très souvent, la bonne réponse des scientifiques, c'est de dire « on ne sait pas ». Sur les OGM par exemple, les effets à long terme des OGM, je crois qu'une réponse, enfin je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est plutôt on ne sait pas. Et en tout cas, mon opinion sur les OGM, c'est qu'à la fois il faut poursuivre la recherche en labo, parce que ça peut, enfin, il y a rien de tabou là-dessus, mais qu'en même temps, raconter que si la famine menace le monde, s'il y a des millions et des millions de paysans qui crèvent de faim, etc., dans le monde, ça dépend du fait qu'on mette des OGM, ça c'est une escroquerie. La première chose à dire, c'est que si des millions de gens crèvent de faim dans le monde, c'est à cause des rapports sociaux qui existent dans les pays considérés, les dictatures qui sont soutenues à bout de bras, etc., etc., etc. La question des OGM passe bien après tout ça, ça c'est une escroquerie évidente. Bon...
Je ne sais pas si vous en avez parlé, le fait que la connaissance scientifique puisse dépendre des moyens techniques qui sont ceux d'une époque, est-ce que c'est une limite à la connaissance scientifique ?
Bah oui, évidemment. Une série de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui reste alors comme possibilité de vérité scientifique ?
Bah, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je suis sûr de ne pas la comprendre, d'ailleurs.
Non, d'accord. Non, c'est l'idée, si on, pour celui qui souhaite relativiser l'idée de vérité scientifique...
Relativisant, oui.
Est-ce que la technique et l'évolution de la technique est un moyen suffisant pour relativiser...
Est-ce que, en imaginant de nouvelles technologies, tous les savoirs actuels ne vont pas être remis en cause ?
Ben, par exemple, la datation des arbres en comptant les cernes, j'ai beaucoup de doutes que ce sera remis en cause. Je crois que ça fait partie des acquis. Je dirais la même chose pour l'âge de la Terre. Je dirais pas la même chose pour la date du Big Bang. 13,7 milliards d'années, c'est ce qu'on dit actuellement. Ça repose sur une série de choses, mais bon, c'est peut-être quelque chose qui peut bouger. Il y a des certitudes plus ou moins grandes. Peut-être je peux prendre... Le doute de tout n'est pas une attitude scientifique. Le doute de rien n'est pas non plus une attitude scientifique. Il y a une espèce, je suis désolé de dire des choses floues comme ça, il y a une espèce de... Je vais donner l'exemple de Russell, qui est un grand logicien anglais. Il disait, il n'y a pas de théière en orbite entre Mars et Jupiter. C'est une vérité scientifique. Quelle preuve il y a ? Il n'y a aucune preuve qu'il n'existe pas de théière. Alors il disait, pourquoi je dis ça ? Parce que d'une part, aucune théorie ne m'impose l'existence d'une théière entre Mars et Jupiter. Deuxièmement, aucune observation empirique ne me montre l'existence d'une telle théière. Je conclus qu'il n'y a pas de théière comme vérité scientifique, point. Si vous voulez, je peux dire, il est extraordinairement vraisemblable qu'il n'y a pas de théière entre Jupiter et Mars. Si ça vous amuse, parce que, bon, voilà, ben voilà, c'est ce qu'on appelle une vérité scientifique. Ça peut... J'aime beaucoup les athées espagnols qui ont fait toute une publicité dans les bus en disant « Dieu n'existe probablement pas ». C'est pas mal, je trouve, mais probablement pas, c'est très très probablement pas, pour la même raison. Il n'y a pas de théorie qui m'impose l'existence de Dieu, une fois qu'on a compris le darwinisme et beaucoup de choses, bien entendu, c'est pas si trivial que ça. Et j'ai aucune donnée empirique non plus, à part les miracles, qui m'impose de croire à Dieu. Donc la combinaison des deux fait que Dieu n'existe probablement pas. Mais bon, il faut voir. Voilà.
Mais du coup, alors, puisque c'est vérité scientifique, ça veut dire qu'on n'a pas forcément... On a des critères en creux, alors, pour définir des vérités scientifiques.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que on sait ce qui n'est pas une vérité scientifique.
Ah, c'est plus facile, ça c'est sûr, de montrer qu'une démarche n'est pas scientifique, effectivement. Ben, c'est comme pour la justice, c'est plus facile de démontrer que quelque chose est injuste que de renvoyer à quelque chose qui est juste. Parce qu'aussi, c'est comme... Qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est pas facile à définir. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique ? Il y a beaucoup de choses là-dessus, on peut parler... pas mal de choses, mais bon, mais n'empêche que ça existe et ça doit être défendu. De même, la justice, ça existe, ça doit être défendu. Et si on attaque le ministre de la Justice, c'est au nom de la justice. Si on attaque le ministre de la Recherche, c'est au nom de la recherche scientifique et pas en disant, pour le ministre de la Justice, comme la justice n'existe pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne fait pas d'attaque du ministre de la Justice. Ben non, il faut le faire quand même, même si le concept de justice est un petit peu compliqué.
Et si on attaque Claude Allègre, c'est donc au nom de la science.
Bien sûr,
précisément,
bien
il raconte des...
Mais bien sûr, mais bien sûr. Là, il faut faire attention aussi à... Ça, c'est... Russell insiste beaucoup là-dessus. Il faut toujours juger d'une théorie pour sa valeur en soi, indépendamment du genre, des gens qui l'émettent, qui l'énoncent. Il faut toujours juger en tant que tel. Bon. Ensuite, on peut toujours rajouter, ça c'est la cerise sur le gâteau, ah c'est pas par hasard si tu dis ça parce que t'es payé par les labos X, Y, Z. Mais il faut pas commencer par ça. Il faut jamais commencer par ça. Ça c'est une paresse intellectuelle et elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Hein. Donc
par exemple, lorsqu'on a des géologues très, géophysiciens très célèbres qui vont essayer de faire des ANR ou des projets de recherche sur l'effet du soleil sur le climat, est-ce que la première chose à dire, c'est pas « Ah, mais vous êtes aux ordres de ceux qui sont climato-sceptiques », mais de regarder leurs travaux,
oui. C'est comme ça qu'il faut prendre. Je crois que c'est ça qui est convaincant, parce qu'il y a des tas d'exemples où finalement la droite a été rationnelle. À laisser la gauche plutôt irrationnelle. Il faut pas. Dans l'affaire Sokal, je ne sais pas si les auditeurs ont entendu parler de ce bouquin, il a été plutôt. C'est un bouquin que je trouve excellent, il a été plutôt défendu par des gens de droite et attaqué par des gens de gauche. Bon, c'est. Dans l'histoire, mais ça c'est des vieilles histoires, il y avait la notion de science bourgeoise, science prolétarienne, je ne sais pas, les très vieux auditeurs peuvent s'en souvenir, où on disait qu'il y avait une science du prolétariat, c'est Staline qui disait ça, et donc les communistes avaient forcément la bonne science, et les autres c'était la science bourgeoise, c'était très mauvais, et on jugeait d'une science sur la source sociale de cette science. Je trouve qu'un penseur actuel comme Bruno Latour fait un peu une démarche analogue, enfin, par certains côtés, je caricature un peu, certainement Bruno Latour n'est pas partisan de sciences bourgeoises, sciences prolétariennes, mais il considère que les vérités scientifiques sont sociales de part en part. Et ça, c'est extrêmement dangereux, je crois.
Alors, pour reprendre l'exemple du climat que tu prenais, tu disais qu'il faut juger sur des critères scientifiques des travaux de chercheurs qui prétendent que ce n'est pas les gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui augmentent la température, mais que c'est des variations de l'activité magnétique solaire. Donc il faut juger ça scientifiquement. En même temps, tu nous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas douter de tout, qu'il doit y avoir des certitudes. Oui. Or, en la matière, on a la quasi, même la totalité des climatologues du monde, ça s'exprime par le rapport du GIEC, tous les gens qui ont travaillé sur cette question sont persuadés, éprouvent, modèles, théories à l'appui, que c'est bien l'activité humaine et non pas le soleil qui explique le réchauffement. Et donc, c'est un petit peu contradictoire, on ne peut pas tout redémontrer en permanence, tout réfléchir, et même... Pourquoi réfléchir à des arguments qui sont réfutés par tous les gens qui ont vraiment travaillé sur cette question dans ce cas ?
Oui, mais Allègre a été réfuté scientifiquement. Quand on dit par exemple qu'Allègre a truqué une courbe, il a quitté le terrain de la science. On n'a pas le droit de truquer une courbe pour démontrer quelque chose, c'est aussi simple que ça, mais il ne faut pas oublier de le dire. On ne peut pas se contenter de... Bon, oui, je suis d'accord avec toi, il y a un moment où on accepte... C'est pas facile à faire, ça, c'est évident. Et on ne peut pas tout redémontrer soi-même, c'est exclu. Évidemment, il y a un taux de confiance qu'il faut faire, mais il est rationnel. Il est à chaque fois rationnel.
Donc là, on voit que la science est en pleine actualité, qu'il y a quand même beaucoup de raisons dans l'actualité qui nous fait nous poser des questions sur la science. Mais quand même, on se pose la question, pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant écrire ce livre sur la Terre, sur l'âge de la Terre ? Quel est le but en fait de cet ouvrage ?
Je voulais illustrer deux choses, si vous voulez. Je crois que le relativisme scientifique est mauvais. Là, on n'a pas eu le temps tellement de développer, mais enfin, c'est un peu l'idée que la vérité scientifique est démontrée à l'aide du rapport des forces. C'est le rapport des forces qui décide que telle théorie est bonne ou mauvaise. Bon, et finalement, c'est un problème de communication. Et si le triomphe d'une théorie sur une autre, c'est un problème de communication, la conclusion pratique dans les facs, c'est qu'il faut augmenter le budget communication et diminuer celui de la recherche, puisque la recherche est toujours aléatoire, c'est compliqué, ça coûte très cher, et c'est un petit peu vers ça qu'on va dans pas mal de facs. Donc il y a vraiment une conséquence très pratique de certaines conceptions relativistes de la science. D'une part, donc c'était ça. D'autre part, je crois que le littéralisme religieux est extrêmement dangereux, pas seulement musulman, juif aussi, bien entendu. Il y en a qui démontre qu'Israël appartient aux Juifs parce que, je sais pas quoi, la Bible le dit.
Mais en quoi est-ce que ça pose problème ?
Non, mais ça pose pas de problème que les gens croient au Christ, à l'Immaculée Conception, à l'astrologie, à la transmission de pensée, à la mémoire de l'eau, etc. Tout ça, c'est possible. Ce qui m'ennuie, c'est l'introduction de l'irrationnel. À chaque fois qu'on introduit l'irrationnel comme credo, si j'ose dire, on est obligé de faire intervenir un argument d'autorité, sinon ça marche pas. L'autorité peut être celle du pape, des curés, des évêques, des imams, elle peut être celle du texte sacré aussi bien. Mais à chaque fois qu'on fait, tu fais intervenir un argument d'autorité, c'est une démission du raisonnement, c'est une démission de l'intelligence. Et ça, je crois que c'est toujours dangereux, parce qu'ensuite, ça peut aussi très bien se traduire sur le terrain politique ou autre, la soumission à l'autorité.
Mais du coup, on peut du coup se questionner sur la façon dont on transmet les sciences, parce que la façon dont on transmet les sciences, dont on enseigne par exemple la physique ou les SVT au collège ou au lycée, c'est aussi un peu une façon... un peu autoritaire ou de dire ben voilà, les choses sont comme ça et point.
On peut s'interroger du point de vue de l'enseignement et également du point de vue du citoyen. Toi-même tu es physicien, si on te propose un énoncé de, je ne sais pas, de pharmacologie par un plein domaine où tu n'entends rien, tu vas devoir de près ou loin te former une opinion à partir d'arguments d'autorité. Tu écouteras différents pharmacologues et puis tu verras ceux qui ont l'air les plus respectables ou les plus sérieux. Mais il est impossible, même étant scientifique, de se former un argument, une opinion éclairée.
Je suis d'accord, bien sûr. Non, il y a un problème de vraisemblance à un moment donné. Tu peux regarder la démarche des uns et des autres, bien sûr. Mais je n'accepterai jamais l'appel à l'irrationnel. Bon, et alors, bien sûr qu'il y a un argument, l'argument de vraisemblance est en un certain sens un argument d'autorité, bien sûr. Si je, par exemple, sur le climat, je n'y connais rien moi personnellement, j'ai regardé un peu comment les gens se positionnaient, il n'y a aucun doute pour moi que la réponse est du côté, n'est pas du côté des climato-sceptiques. Mais pour ça, j'ai quand même une démarche scientifique aussi, elle est rationnelle, elle n'est pas...
Donc ce qui est important à enseigner, c'est aussi la démarche et le côté avoir un doute et essayer de répondre à ce doute-là de manière rationnelle.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Mais sans avoir le doute, comme vous le disiez
tout à l'heure. C'est pas le doute permanent non plus.
Nous, moi, dans le travail social où on peut exercer, on a l'impression qu'on a affaire à souvent à des jeunes qui doutent très fortement, y compris l'argument scientifique, qui les mettent au même niveau qu'un argument religieux ou un argument de croyance irrationnelle, en disant, mais de toute façon, vous nous dites quelque chose, un jour on prouvera autre chose, et ça a perdu toute valeur, c'est-à-dire ce qu'on entendait tout à l'heure, là, c'est à partir de quel moment on peut faire confiance à un savoir scientifique plus qu'à un autre.
Faut penser, c'est autorisé.
Du coup, on a une lecture relativiste où tu parlais de Latour ou des philosophes des sciences qu'on peut qualifier de relativistes, quel est le problème en fait qu'il y ait des gens qui disent ça c'est possible, ça peut être vrai. Pourquoi cette position qui paraît plus ouverte, elle pourrait être dangereuse?
Ben, j'ai montré rapidement, dangereux, je sais pas, mais j'ai montré, prends l'argument de la théière de Russell. La position plus ouverte consiste à dire, il y a peut-être une théière, peut-être il n'y en a pas. Ça paraît plus scientifique. Mais si tu vois les choses en pratique, est-ce que tu vas mettre de l'argent là-dessus? Ce serait criminel de mettre de l'argent, parce que tu vas détourner une partie des ressources humaines qui coûtent cher en sueur, en travail, etc., pour un truc totalement inutile. C'est presque criminel, disons. Bon, il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait donner.
Et donc c'est juste parce que comme ça permet de réorienter les politiques scientifiques, de pas avoir une attitude plus ouverte, ou il y a d'autres raisons. J'ai l'air de dire que les choses, c'est possible que ce soit ça ou ça. Le problème, c'est juste qu'on orienterait de l'argent vers des programmes de sciences non féconds, ou c'est parce qu'il y a d'autres problèmes.
T'as eu une ministre de la santé, comment elle s'appelait déjà, Dufoy, qui croyait aux médecines parallèles, à toutes sortes de salades comme ça. Elle a voulu aussi mettre de l'argent pour chercher des médecines ridicules. Enfin bon, voilà, ben ça c'est pas bien du tout, je veux dire. Apparemment, ça paraissait plus scientifique. Elle disait, il y a d'une part la médecine officielle, d'autre part la médecine parallèle, je suis plus ouvert, je donne de l'argent un peu à droite et à gauche. Ben non, ça marche pas comme ça.
D'accord, donc ça serait...
Dufoy, elle s'appelait.
Dufoy, donc ça permettrait en plus de permettre d'avoir des billes aux religieux dont tu parlais tout à l'heure. Puisque chaque opinion se vaudrait, que la science serait une opinion comme une autre,
ah oui.
Est-ce que ça ouvre une porte aussi
Ben bien sûr, ben oui, si la science est une opinion comme une autre, de quel droit tu peux dire que les créationnistes racontent des histoires quand ils disent que la Terre est datée de 3896 ans, etc., etc. Tu n'as aucun élément pour le faire. Donc, même si c'est deux mondes complètement différents, à savoir les relativistes scientifiques d'un côté et puis les créationnistes de l'autre, il y a une espèce de complicité de fait, disons, entre les deux qui est amusante, quoi.
D'accord. Alors comme on va le voir avec le son qui suit là, on a quand même des fois des difficultés à comprendre le monde scientifique, et des fois ça paraît un peu un monde clos où on a besoin d'avoir des passeurs ou des traducteurs pour voir ce qui se trame dans les labos. Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Les gars, je viens de voir la salle, il y a au moins 20. Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Les gars, je viens de voir la salle, il y a au moins 25 personnes là. Tu veux rire?
Ah bon, c'est tout?
C'est tout? Pour un séminaire sur la physique des particules, c'est Woodstock.
Ah bon? Bah alors c'est cool.
Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, du coup j'ai le trac.
Ça va aller, t'as qu'à commencer par une blague.
Ah oui, une blague? Ah, j'en ai une. Vous êtes prêts? Alors voilà,
C'est l'histoire d'un fermier qui a un élevage de poules, mais aucune d'entre elles ne donne d'œufs. Alors du coup, il fait appel à un physicien. Vous me suivez? Et ce physicien, après avoir fait tout un tas de calculs, lui dit alors « J'ai bien une solution, mais ça ne marche qu'avec des poules sphériques et un aspirateur. » Elle est bonne, hein?
Oh, je la connaissais déjà, c'est pour ça.
Bon, les connaisseurs ont reconnu The Big Bang Theory, une série américaine qui est monstrueusement mal doublée en français. Donc on vous invite à l'écouter en version originale sous-titrée. Et on voit un peu que le monde des scientifiques est un monde quand même des fois assez hermétique au reste. Mais on voit aussi qu'on peut bien rigoler avec les sciences. Alors on est toujours avec Hubert Krivine. Et on est toujours autour de son livre « La Terre, des mythes au savoir », dont le titre paraît-il peut être amélioré, mais dont le propos est intéressant.
Justement, moi je voulais savoir, après votre réflexion là, au début de l'émission sur le fait que ce titre sous-entendrait qu'il n'y ait plus de mythes et plus que des savoirs, et on l'a entendu tout au long de l'émission, il reste des mythes, il reste de l'irrationnel. Comment vous le renommeriez si on vous faisait une proposition de nouvelle édition?
Non, je regarderais le titre, parce que je crois quand même qu'il y a une différence énorme. Jadis, enfin j'entends à la Renaissance et avant, on invoquait les mythes comme démonstration. Et c'était correct. Aristote a dit que c'est bon, la Bible dit que c'est bon, le Coran dit que c'est bon. Aujourd'hui, personne n'ose dire ça. Aujourd'hui, même si on peut penser que derrière certains scientifiques et surtout certains économistes, il y a plein de mythes et de conceptions folles et délirantes, jamais ils ne se revendiquent de l'autorité. Ils prétendent être scientifiques. Et ça, c'est un progrès énorme. C'est un progrès énorme. Ils sont obligés de faire des hypothèses, des démonstrations, des conclusions. Alors ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, cerise sur le gâteau, on peut dire, vous avez des mythes derrière tout ça. Mais il ne faut pas commencer par faire ça. Si vous voulez, l'exemple que j'avais donné aussi, c'est la torture. Aujourd'hui, la torture est pratiquée sur une échelle de masse, hein, Guantanamo. Et ailleurs, bon, peut-être autant qu'avant, mais elle est interdite, elle est considérée comme mauvaise, et c'est un progrès de l'humanité énorme, ça. Je dirais que c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, le mythe est interdit, même s'il est pratiqué.
Et donc du coup, par rapport à ce que tu disais sur la science, même les créationnistes essayent de venir sur le terrain de la science. Absolument. Pour essayer de faire avancer les choses. D'où l'intelligent design.
Exactement.
D'où les mentonnés frères Bogdanov, voilà, ou autres, voilà. Donc, qui essayent. Exactement. D'avoir des critères scientifiques pour faire croire aux gens, parce que la science est un peu incontournable.
On n'ose plus mettre la Bible devant maintenant, c'est fini. Même si on pense que derrière elle y est, mais...
Alors je crois que nous allons toucher à la fin de notre émission, donc je voulais vraiment vous remercier Hubert Krivine pour votre livre, donc j'en reparle, j'aime bien faire la pub, on n'est pas très
habitué à Wakadi. Merci.
Aux éditions Cassini, La Terre des mythes au savoir, Maël,
c'est
Boris.
Vrai qu'avec la science qui défend, il ne risque pas d'avoir d'ANR, donc vaudrait mieux qu'ils vendent des bouquins.
Rappelle-nous ce que c'est qu'une ANR, s'il te plaît, quand même.
Je ne sais pas. C'est le financement des allocations nationales de recherche.
Voilà. D'accord.
Voilà, c'est ce qui permet d'orienter les recherches dans un gouvernement super progressiste qu'on a à l'heure actuelle.
Donc, avec moi aujourd'hui, donc, il y avait Maël, Boris et Nicolas, Galad à la technique. Et vous étiez bien sur une émission de Wakadi. Wakadi, on vous le rappelle à chaque fois, c'est un acronyme qui veut dire « on a quelque chose à dire ». Et là, vous voyez, on avait même nous des choses à dire sur la science et les applications aujourd'hui, les visions qu'on peut lui porter. Vous pouvez nous retrouver les troisième et quatrième lundi du mois sur Radio Clapas. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci Jean-Jacques.